Théologie sur l'Église à la lumière de l'Apocalypse par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 23 août 1995.
Comprenez bien que si il y a ces sept sauts successifs, je vous ai dit d'abord de ne pas regarder un ordre univoque. C'est très nettement un ordre où il y a une très grande diversité. Et que cet ordre fait que le premier saut reste présent à tout. Le mystère de la grâce chrétienne qui nous lie à la plénitude de grâce du Christ, qui nous lie au mystère de la croix et à la victoire du mystère de la croix, est toujours présent en acte, en chaque chrétien et dans l'Église. Mais évidemment, cette victoire peut être à certains moments très cachée. Et on nous montre alors, et c'est, je crois, ce qu'on doit essayer de saisir, à travers ces sept sauts, on doit saisir comme les sept grandes dimensions du gouvernement de Dieu. Parce que c'est l'alpha et l'oméga. Et tout le gouvernement de Dieu se fait à travers cela. Parce que Dieu veut les conséquences du péché originel. Ça, c'est sûr. Ça fait partie de cet état imparfait de la race humaine, de notre nature humaine. Conséquences du péché. Et on porte cette conséquence du péché. Mais alors comprenez-le bien, c'est porté à travers cette victoire d'amour. On porte ses concupiscences vraiment en disciple aimant du Christ. Déjà victorieux. Oui, c'est là où on pourrait voir le regard tout à fait différent que nous donne cette théologie d'économie divine et le regard du psychologue. Ce serait là très intéressant, parce que là, c'est vu avec force. Le psychologue, je parle du psychologue qui fait appel uniquement à sa science psychologique. Si science il y a, ou si art il y a, parce que c'est à la fois une science et un art, tu vois, dans l'application, ouais. Il ne voit pas que beaucoup de déséquilibres qui sont en nous ont une source très radicale, très profonde, qui sont les conséquences du péché originel. Au point de vue théologique, je crois que nous devrions dire ceci, c'est que le regard de Dieu sur nous, sur chacun de nos actes humains, chrétiens, implique ces sept dimensions. C'est ça qui est très extraordinaire, puisque c'est le regard de Dieu sur nous. Et c'est vrai que dans des actes humains et dans des actes chrétiens, ben, nous avons un irascible quelquefois qui n'est pas du tout dominé, et qui n'est jamais jamais totalement dominé du reste. Nous avons un concupiscible, non plus jamais totalement dominé. C'est pour ça que j'aime dire qu'il y a un volcan en nous. C'est volcanique tout ça. Ça éclate de temps en temps. On a un orgueil qui n'est jamais totalement dominé. On a une imagination de notre vanité qui est extraordinaire. Et cependant, la grâce est toujours présente et dépasse. Elle n'est pas enfouie. Mais l'exercice de la foi, l'espérance et la charité qui sont présentes dans le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est la foi, c'est l'espérance et c'est la charité, n'est-ce pas ? Puisque la victoire du Christ, elle se transmet immédiatement à travers notre foi, notre espérance et notre charité. Mais notre foi, notre espérance et charité, dans son exercice, est limitée par les trois concupiscences. Ça fait partie des limites. Nous luttons pour que ces limites soient dépassées. Quand nous péchons, c'est la limite qui détermine notre acte. Ça, c'est sûr. Quand nous commettons une faute de concupiscence, une grosse faute de concupiscence, espèce de gourmandise effrénée pendant le carême vis-à-vis du chocolat. Le concupiscence est très puissant. Et on avait promis au Seigneur d'arrêter, de dominer. On n'y arrive pas. On se cache derrière un arbre pour que le Seigneur ne voit pas. Ce qu'a fait Adam, on imite notre grand-père. Et alors, à ce moment-là, ce n'est plus la foi, ce n'est plus l'espérance, ce n'est plus la charité. On avait promis ça par la foi, par l'espérance et la charité, pour être fidèle au Christ, pour donner quelque chose. Puis il y a une poussée telle de concupiscence. On avait un repas dégoûtant, on n'a rien mangé. Et juste le hasard. C'est pas la providence, le hasard. Le démon est maître du hasard. Juste là. Et vous tombez. Alors la concupiscence détermine votre acte. Alors que normalement, pas du tout. Vous arrivez à dépasser. Mais ce sont vraiment. Ça demeure le poids terrible de ces conséquences du péché. On est lié au péché. On est ligoté au péché. Il y a des liens qui demeurent à terme. On n'en peut rien. Le psychologue verra un déséquilibre. Vous voyez, il y a trois sources de déséquilibre. Parce que le cheval verdâtre, c'est pas une source d'équilibre. Le cheval noir non plus. Le vache aux cheveux non plus. Trois sources de déséquilibre. Alors nous arrivons après, et je reprends rapidement, parce que c'est important. Tout ça doit nous aider à comprendre ce que c'est que notre acte humain répondant à l'appel de Dieu, à l'appel du Père. Tous nos actes humains, transformés par la grâce, divinisés par la grâce, sont tous dans la lumière de la prédestination. On verra ça à la fin, parce que ça, c'est quand même important. Lorsque l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. Alors comprenez bien, ils sont martyrs. Oui, ils sont martyrs. Mais ils n'ont pas la palme du martyr. On est tous, en tant que chrétiens, un peu martyrs. Le martyr sanglant et le martyr non sanglant. Chacun d'entre nous. tous saints. Ça, c'est évident. On l'a plus ou moins. Et ça, vous retiendrez ça toute votre vie, que je vous ai dit que vous étiez un saint. Ou une sainte. Mais l'oreille, elle n'a pas encore beaucoup poussé. Mais la réalité est présente, quand même. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. Ils crièrent d'une voix forte, disant : « Jusqu'à quand, Maître saint et véridique, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang en le redemandant à ceux qui habitent sur la terre ?» C'est extraordinaire. C'est saint qui crie ça. Ce qui montre bien que la sainteté n'est pas encore totalement conquérante de tout. C'est quand même une sainteté. Ils sont témoins de l'amour de Dieu. Mais ils ont en eux, alors c'est ça, c'est très difficile à bien comprendre ça. Parce que c'est le regard de Dieu sur quelque chose de très radical et très profond dans notre âme. J'aime pas t'en parler, hein. C'est comme une sorte de refoulement. Mais ça, ce serait une expression. Vous voyez, ce serait une herméneutique psychanalytique du cinquième sceau. C'est pas tout à fait vrai, parce que c'est pas ça qu'il faut voir. Mais il faut voir que le sentiment de justice, qui est très noble, qui est très grand, c'est peut-être cela dont on a la plus de peine à sanctifier. Notre sainteté n'est pas une sainteté de justice. Mais tous nos efforts, où on est témoin, sous l'autel, permettent à la justice de s'enraciner en nous. Les hommes justes de l'Ancien Testament, justice religieuse, pas une simple justice légale, non, justice religieuse. Donc une justice qui provient de l'adoration. On est des témoins du Christ, on adore. L'adoration qui est liée à la justice, la vertu de religion est une partie de la justice, dit Thomas d'Aquin. Et c'est vrai. Avant d'avoir une adoration contemplative, une adoration toute purifiée par Dieu, il peut y avoir une adoration avec un mode humain qui fait que la justice religieuse de celui qui adore et qui fait parfaitement son devoir et qui a conscience de l'accomplir fait que il y a une sorte de revendication. Et oui, comme une poussée, j'allais presque dire une poussée instinctive, naturelle, disons naturelle, c'est plus juste. Il leur fut donné à chacun une robe blanche. Il leur fut dit de se tenir en repos, alors qu'ils criaient, encore un peu de temps, jusqu'à ce que fussent au complet, et leurs compagnons d'esclavage, et leurs frères qui vont être tués. Leur demande de patienter, d'aller plus loin. En patientant, ils vont dépasser quelque chose. Ils vont dépasser la grande tribulation qui est donnée donc au sixième sceau. Là, je crois que c'est un moment très curieux, comme une espèce d'état qui n'est pas un état religieux et qui n'est pas encore ce que Dieu attend. Il y a quelque chose de plus. Et c'est ce dépassement, ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, mais c'est très difficile à dire, d'un dépassement d'une certaine conscience religieuse où l'on est accomplit parfaitement. l'expression dans la vie religieuse avant le concile. On disait, cette religieuse est parfaite, elle fait toute la règle. J'ai entendu ça plusieurs fois. Je pensais toujours au cinquième sceau. Oui, elle fait toute la règle. Elle est bonne pour le ciel. Elle est martyre. C'est parfait. Et à ce moment-là, la sainteté n'est pas encore là, parce qu'on demeure à un niveau de justice. Et qui peut être un des aspects les plus difficiles à dépasser. Oui. Alors on a le sixième. Alors le sixième, voyez, comme toujours, pour chacun d'entre nous, il y a un sixième sceau. Pour chacun d'entre nous, il y a un sixième sceau pour l'Église. Je ne crois pas du tout qu'il faut considérer les sceaux d'une manière dans un développement temporel. Mais quand même, pour chaque individu, il y a un certain développement. Il y a une période, c'est sûr, où le premier sceau est merveilleux. Il y a quand même une période ordinairement chez le chrétien, quelque chose de très beau. C'est sa conversion. On a l'impression que les trois concupiscences sont parties. C'est parti, c'est fini. Enfin, c'est terminé. Et c'est jamais terminé, c'est ça qui est le mieux. Et alors, c'est terminé, vous voyez. On s'y arrête, on se repose, ça y est. Pas du tout. Alors, il y a la grande secousse qui revient après. Et la secousse, elle est fameuse. Alors, et je vis, lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau, il y eut une grande secousse. Un grand tremblement de terre, une secousse. Et le soleil devint comme devient noir comme un sac de grains. Le soleil, c'est la présence de Jésus. Il a disparu complètement. Et la lune entière devient comme du sang. La lune, c'est Marie. La grâce chrétienne, mais en présence de Jésus, en présence de Marie. Et Marie, c'est limpide. Et là, elle devient comme du sang, la suite du meurtre. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des... Les étoiles du ciel, c'est toute la lumière de la doctrine. Les étoiles du ciel, tout l'aspect de la contemplation, toutes nos sagesses tombèrent sur la terre comme un figuier jette ses fruits encore verts quand il est secoué par un grand. C'est un miracle. Et quand on voit tous ces théologiens qui ont peut-être été très beaux, tout d'un coup, ça tombe. Alors qu'ils devaient être des témoins. Et ça arrive même pour des chrétiens. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Le ciel, c'est la contemplation. Et toutes montagnes et îles furent ôtées de leur place. Donc, grande secousse. On n'y reconnaît plus rien. Tout ce qu'on avait construit, tout ça a disparu. Et les rois de la terre, et les grands, et les capitaines, et les riches, et les puissants, et tout esclave et homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ça, c'est bien l'angoisse. Le fruit de ces secousses extraordinairement grandes qui secouent tout. Ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car il est venu le jour, le grand jour de leur colère. tous en nous. C'est sept moments. Et le cheval blanc est présent. Partout. Évidemment, quand les secousses sont très fortes, quand tout est très agité, on ne voit plus rien. Ce qu'on dira, alors, c'est un moment terrible pour la faune. Les plus grands saints ont ça. La petite Thérèse a eu ça. Marthe a eu ça. Marthe Robin, un jour, m'a dit, Père Finet m'avait averti, heureusement. Et Père Finet m'avait dit, Père, je ne peux plus rien sur Marthe. Alors, si jamais elle vous parle de tout ce qu'elle vit maintenant, n'hésitez pas de lui parler. C'est vrai, il y avait un lien très fort avec elle. Et alors Marthe, tout d'un coup, me dit, Père, emmenez-moi faire les fous. Oui, ça, je suis parti avec Marthe sur le dos. Chez les fous, pour que je puisse prier. Ici, c'est impossible. Je ne sers plus à rien. Au contraire, je leur fais mal. Je suis complètement inutile. Emmenez-moi chez les fous, là je pourrais prier. Et on aurait été au Moyen-Âge, j'aurais pris un commando de frères de Saint-Jean, on serait parti la nuit, on aurait emporté Marthe jusqu'ici. On n'est plus au Moyen-Âge, n'est-ce pas ? On n'est plus au Moyen-Âge, on ne peut plus faire ça. C'est impossible. Mais c'est pour vous montrer, voyez, que verticalement, c'est vrai, ces états-là peuvent se représenter plusieurs fois. Et Martha Sevel, la petite Thérèse, a vécu ça. Des moments où on ne voit plus rien. Et tout ce qui semblait être acquis, comme un néant. Le soleil, la présence de Jésus disparaît. La présence de Marie, c'est du sang, effrayant. Et il n'y a plus que l'imaginaire. On est secoué. Alors, je dis verticalement, et je crois qu'on peut dire horizontalement aussi, comme toujours, les deux dimensions. Si c'est une vision d'éternité dans le temps, il y a les deux choses pour chacun d'entre nous et pour l'Église. Je crois que l'Église a toujours vécu des sept sceaux. Il y a des périodes de l'Église où le sixième sceau est particulièrement violent. Et je crois que nous y sommes. Sixième sceau. Et vous voyez, c'est ça qui est important à voir, c'est que le sixième sceau n'est pas premièrement manifesté par la guerre. C'est beaucoup plus, d'une certaine manière, le cinquième, où on réclame la justice. C'est l'angoisse. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment l'angoisse généralisée qui est même ceux qui sont les plus enracinés et les plus stables dans leur intimité avec le Christ. Mais c'est sûr que c'est bien le regard du Père sur nous et les déterminations du Père sur nous qui se prennent à partir du cheval blanc. On est sur la terre en plein combat. Combat interne. La lutte interne. La lutte externe. Entre deux, il y a un répit d'un temps, mais un répit. Et qu'il ne faut pas considérer ce moment comme le terme. Doit dépasser ce point de vue de l'ordre de la justice pour accepter de ne plus rien voir. Et alors, continue ici. Le chapitre 7. Mais, et lorsque l'ange, chapitre 8, et lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est l'entrée dans la vision béatifique. C'est le silence septième. On ne dit rien. Silence de Dieu. Alors voyez, le lien entre le premier, le cheval blanc, le premier et le dernier, Alpha, Oméga, qui se tiennent. Le terme est présent dans la victoire. Il est présent à travers tout autrui. C'est le problème des vertus théologales. Les vertus théologales nous unissent toujours au terme. Je crois que c'est une façon extrêmement belle au point de vue descriptif de ce que représente le mystère de la grâce chrétienne. C'est étonnant. Comme attitude descriptive très concrète, la grâce chrétienne qui se développe dans la foi, l'espérance et la charité connaît ses luttes internes. Alors on pourrait se demander si dans les trois il y a des liens plus différents avec la foi, l'espérance et la charité. Ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Puis, il y a comme un acquis. C'est vrai, il y a un acquis. On acquiert les vertus. Mais on acquiert aussi l'accroissement des vertus théologales. Mais dans les vertus théologales, au sens strict, plus la croissance se fait grande, plus on est dépendant. Donc il n'y a pas d'acquis. Mais il y a un danger de considérer un acquis. Je suis un saint. Ça y est, c'est arrivé. Oui. L'état et qui est montré comme une tentation. Et comme une tentation, j'allais dire, très humaine, et très profonde. On reproche à Dieu de ne pas agir comme il devrait agir. Il laisse à côté de moi un salaud auquel tout réussit. Tout réussit. Tous les biens de la terre. C'est tentant. Comment Dieu est-il bon? Comment Dieu est-il juste? C'est sensible à la justice. Quand même, il devrait au moins l'écarter un peu. Dis, tais-toi, on lui donne une robe blanche, c'est très joli. On lui donne une robe blanche pour le calmer un peu. Il a le droit de considérer qu'il est béni de Dieu. C'est bien. Mais si on est béni de Dieu, on n'a aucun acquis. On doit dépasser toujours l'acquis. La sainteté, c'est un dépassement. La sainteté chrétienne, c'est un dépassement constant de tout ce qui est acquis. Mais tout celui qui vit de l'acquis n'est plus au niveau de la grâce chrétienne. Le cheval blanc n'a plus rien à faire. Parce que les païens en font autant. L'acquis des vertus. L'acquis d'une sagesse humaine. Alors pour supprimer tout ça, le sixième sceau, Dieu se sert des grandes tribulations pour nous empêcher de croire trop vite qu'on est un saint. Grande purification. Après cela, je reviens au chapitre 7. Donc, chapitre 7, c'est entre 6 et 7. Point de vue des sceaux. Après cela, je vis debout aux quatre coins de la terre quatre anges qui retenaient les quatre vents de la terre pour qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du soleil levant avec le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges auxquels il a été donné de nuire à la terre et à la mer. Ne nuisez pas à la terre ni à la mer. des vieillards, prit la parole et me dit « Ceux-là qui sont vêtus de robes et de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils vécus, venus ?» Et je leur dis « Monseigneur, toi tu le sais. » Ce sont ceux qui viennent de l'affliction, la grande affliction. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente au-dessus d'eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera pas, ni aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les guidera vers les sources d'eau de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc voyez, ce secours de Dieu qui vient donner cette espérance vivante, c'est déjà le ciel. Et là, vous avez tout de suite après. Et lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le terme de du sixième sceau s'achève dans le septième. Et le sceau de Dieu, c'est cette certitude intérieure de la miséricorde de Dieu sur nous, au milieu des plus grands combats. Notre Seigneur le dit, vous savez, quand les apôtres se réjouissent d'avoir fait tomber les anges du ciel, les mauvais anges. Réjouissez-vous d'avoir votre nom inscrit dans le ciel. C'est ça. Cette joie intérieure, cette force nouvelle au milieu de tout le combat, on sait qu'on est aimé de Dieu, aimé du Christ. C'est donc cette certitude de l'espérance au milieu du combat. Vous voyez comme on rejoint le cheval blanc. Parce que c'est ça, la certitude absolue que personne ne peut nous séparer du Christ. Qui nous séparera de la charité du Christ? Parce que vous voyez, on pourrait interpréter ça déjà dans la vision du ciel, non? Ça reste le sixième sceau. Mais le sixième sceau s'ouvre. Parce que plus les combats sont grands, plus la grâce surabonde. Et à travers ce sixième sceau, on est tout proche du terme. Ça, c'est tout l'ordre particulier de l'Apocalypse qui n'est pas commode à saisir. Nous avons vu donc comment les sept sceaux expriment les volontés du Père sur nous, les décisions du Père à travers le sang d'agneau. Nous avons à partir de là quelque chose qui est tout à fait différent. Les sept trompettes. C'est tout à fait autre chose. Les sceaux, c'est les décisions de Dieu. Les trompettes, c'est l'exécution. Il y en a sept. C'est vraiment la théologie de l'économie divine, si on veut la comprendre. Parce qu'on est en face des déterminations. Et les déterminations se réalisent dans l'exécution. Et les trompettes, c'est l'exécution. Et le petit signe est très net. C'est lorsqu'il s'agit des décisions de Dieu, les sceaux, seul l'agneau peut les comprendre. nous ne pouvons comprendre ces sept sauts qu'à travers la blessure du cœur de Jésus. Et je vous disais, c'est bien comme les sept dimensions du cœur de Jésus. Sept dimensions de l'amour du Christ sur nous. Tandis que les sept trompettes, vous allez voir, on va aller vite dans cette trompette, parce que c'est tellement difficile qu'il vaut mieux aller très vite. Mais ce que je veux, c'est que vous compreniez les liens entre tout cela. Alors après, on peut essayer de comprendre. Les déterminants, vous voyez, l'acte humain implique des choix et implique l'exécution. Et donc, si on est dans une théologie de l'économie divine, il y a les choix de Dieu. C'est ce que j'appelle la prédestination, les déterminations de Dieu. Les sept. Alors, tâtez le pouls, savoir où est-ce que vous en êtes. Sixième, septième. Pas la septième. On vous verrait plus. Soyez déjà emportés au ciel. Mais la sixième, on y est. Mais heureusement qu'on la voit à travers la première. Et on sait très bien qu'on a des complicités avec tout ça. Et ces complicités resteront jusqu'à la fin. On résistera plus. On les considérera comme plus lointaines. Elles sont... Mais à certains moments, elles peuvent venir extraordinairement proches. Terrain volcanique. Vous avez bien ce petit exemple très simple qui nous aide à comprendre certaines choses du reste dans la vie spirituelle. C'est une chose tout à fait matérielle. Vous savez, quand il y a eu ce volcan dans le Zaïre, qui s'est mis à cracher. Or, j'ai prêché au Rwanda, tout près du Zaïre, et il y avait deux retraites, il y avait donc une journée où je pouvais me promener. Et j'avais dit, j'aimerais beaucoup d'aller voir le volcan du Zaïre. C'est intéressant quand même de voir la lave qui est en là. Alors on m'a raconté cette histoire. On m'a dit, oui, vous savez, vous connaissez comment ça s'est fait. Je dis, non, pas du tout, je connais. Non. Oh, mais il y avait ce volcan qui commençait à fumer. Alors, des spécialistes étaient venus pour inspecter, surveiller. Donc, ils étaient montés tout en haut. Tout en haut, pour surveiller le cratère. Et puis, un beau jour, le volcan a éclaté, non pas en haut, mais sur le côté. De sorte que les spécialistes restaient au-dessus, ils ne pouvaient pas descendre, impossible. On a dû les reprendre en hélicoptère. Oui. Alors c'est tellement ça dans la vie. On surveille très bien certaines vertus. Ah, là-dessus, on sera impeccable. Puis, pouf, sur le côté, ça éclate. Parce qu'on ne voit pas suffisamment comme Dieu regarde à travers le cheval blanc. La victoire du Christ, l'amour. Les gens qui sont trop attentifs à leurs tentations, le démon les tient et attaque brutalement de l'autre côté. Ils sont tout attentifs à leurs tentations. Alors que c'est pas ça. On doit être attentif à progresser dans l'amour, à progresser dans l'espérance, à progresser dans la foi. Alors là, il n'y a plus de danger. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné sept trompettes. Alors voyez, ici, ce sont les anges, ce n'est plus l'agneau qui enlève les os. Donc on est dans l'ordre de l'exécution où il peut y avoir des intermédiaires. Dans l'ordre des décisions de Dieu, le seul médiateur, c'est Jésus. se tiennent. Furent tenus. Et un autre ange vint et se plaça près de l'autel avec un encensoir d'or. Il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta de la main de l'ange avec les prières des saints devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres et des voix et des éclairs et une secousse. Et les sept anges qui avaient leurs sept trompettes se préparèrent à en sonner. Voyez comme c'est étonnant. Les sept trompettes sont donc enveloppées par toutes les prières de tous les saints. Vous retrouvez analogiquement le cheval blanc présent à travers les sept trompettes. Et qu'est-ce que c'est ici? C'est les prières des saints. C'est ici ce très grand mystère, très fort. Il y a un autre ange vint et se plaça près de l'autel. L'autel, c'est Jésus. C'est Jésus à la croix, l'autel. C'est Jésus dans son sacrifice. Il se plaça près de la croix, près de l'autel, avec un encensoir d'or. Un encensoir d'or, c'est l'amour. Peut-être près de l'autel grâce à l'encensoir d'or. Et il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Le parfum de Marie de Magdala. C'est très étonnant ça. Dans cette liturgie de l'économie divine, tout le mystère de l'exécution est porté par la prière des saints. Et je crois que cet ange qui se place près de l'autel avec l'encensoir d'or, je me demande si c'est pas Marie. C'est Marie qui offre à Dieu toutes nos prières. C'est Marie qui offre le parfum. Je crois que c'est Marie. Je ne vois pas qui d'autre peut avoir cet encensoir d'or. C'est le cœur de Marie, l'encensoir d'or. C'est la charité merveilleuse de Marie dans son mystère de compassion. Il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints. Le parfum de Marie de Magdala, il lui fut donné, il est donné à Marie. Et la fumée des parfums monta de la main de l'ange avec les prières des saints devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel. Le feu du cœur de Jésus, son amour, et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs. Ça, c'est l'Esprit Saint qui donnait à travers cela une grande secousse. Donc, avant l'exécution, qui est assez terrible, l'exécution des sept trompettes, cette couche d'exécution, tout ça est enveloppé de la gloire de Dieu, des prières et des parfums, d'action de grâce, de demande, la prière des saints. Tout ça est uni à la grande prière du ciel, Marie, dans son soir d'or. Et s'est jeté sur la terre. Parce que entre vécu à travers la prière de Marie, la prière de tous les saints. Et le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle. L'exécution, c'est toujours comme ça que ça se passe.